Bonjour et merci d'être là une fois de plus pour Science Publique. Aujourd'hui, Science Publique vous propose une émission assez exceptionnelle et vous allez voir pourquoi. Et comme toujours, vos réflexions et commentaires sont vivement attendus sur notre site au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Le théâtre quantique est-il ouvert à tous ? Imaginez un mathématicien de renommée mondiale, son professeur de thèse et son épouse. Tous trois ont un jour l'idée d'écrire ensemble un roman qu'ils vont appeler « Le théâtre quantique ». Cela peut vous paraître improbable, pourtant l'ouvrage vient bien de paraître aux éditions Odile Jacob. Il est signé par Alain Cohn, Médaille Fields en 1982, Jacques Dixmier et Danny Chéreau. L'idée est ainsi passée d'un état quantique où, comme le chat de Schrödinger, elle aurait pu à la fois être un livre et une lettre morte. Et aujourd'hui, il s'agit bien d'un objet qui existe et une chance pour le lecteur qui peut ainsi profiter du résultat d'un projet aussi original qu'exceptionnel. Les scientifiques qui écrivent des romans sont assez rares. Ceux qui choisissent le thème de la mécanique quantique le sont plus encore. Dans l'introduction, Alain Cohn n'oublie pas de rappeler la célèbre phrase de Richard Feynman : si vous croyez comprendre la mécanique quantique, c'est que vous ne la comprenez pas. En réalité, cette difficulté plaide pour la forme romanesque qui permet, grâce à l'histoire, d'entraîner le lecteur vers la découverte progressive de cet autre monde étrange et a priori impénétrable pour l'esprit humain. Alain Cohn nous conduit ainsi au CERN de Genève sur les pas d'une jeune physicienne, Charlotte Dampierre. Il nous décrit ses états d'âme, son illumination lorsqu'une nouvelle idée germe dans son esprit. Pas question, bien entendu, de dévoiler l'intrigue qui se termine en véritable roman policier avec assassinat et enquête. Pour la connaître, il vous faudra lire ce livre qui ne ressemble ni aux ouvrages de science-fiction ni aux essais sur la science. Nous allons maintenant tenter de mieux comprendre les motivations de l'auteur. Comment rendre perceptible l'univers quantique à travers un roman ? Quelles grandes idées sous-tendent cette histoire dans laquelle la fiction reste fortement ancrée dans la réalité de la vie quotidienne des scientifiques du CERN qui travaillent en particulier sur le grand accélérateur de particules, le LHC, qui a permis de confirmer l'existence du fameux boson de Higgs. Pourquoi un mathématicien se passionne-t-il pour la mécanique quantique ? Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui dans Sciences Publiques, en direct depuis le studio 1061 de la Maison de la Radio, Alain Cohn, donc mathématicien, professeur au Collège de France, membre de l'Académie des sciences en France et aux États-Unis et détenteur de la médaille Fields, le prix Nobel des mathématiques, en 1982. Alain Cohn est accompagné par un personnage qui fait son apparition à divers titres dans son roman et qui a joué un rôle dans sa gestation. Il s'agit d'Étienne Klein, physicien au CEA, spécialiste du temps et des anagrammes, on verra pourquoi c'est important, que vous connaissez bien puisqu'il est membre du Club Sciences Publiques et qu'il tient une chronique tous les matins, tous les jeudis matins,
heureusement.
Dans les matins de France Culture. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu nous communiquer vos commentaires, vos réflexions et vos témoignages sur le site de Sciences Publiques sur franceculture.fr. Alors Alain Cohn, bonjour.
Bonjour.
Un mot peut-être d'abord sur le pourquoi de ce roman, sur sa genèse.
Alors, si vous voulez, il y a deux points de vue extrêmes sur cette genèse. Le premier point de vue, qui est quand même assez fondamental, c'est que donc, j'ai fait ma thèse avec Jacques Dixmier il y a 40 ans. Et au cours de cette thèse, j'ai fait une trouvaille sur le lien entre l'algèbre non commutative, celle qu'avait mise au point von Neumann après la découverte de la mécanique quantique, et le temps. Alors, au départ, donc dans ma thèse, c'était purement mathématique. Donc ensuite, j'ai développé toutes les conséquences de cette trouvaille. Et il a fallu attendre très longtemps avant que ça soit vraiment relié à la physique. Donc, en fait, la source originale, si vous voulez, du livre, elle est là, elle est très ancienne. On a gardé le contact tout le temps avec Jacques Dixmier.
Donc, qui est co-auteur du livre.
Qui est co-auteur du livre, bien sûr, avec Danny Chéreau. Et ce qui s'est produit, ça a été toute une série d'événements qui ont déclenché l'écriture du livre et qui sont tout à fait extraordinaires et qui ont trait aux anagrammes et qui ont trait, si vous voulez, à un autre aspect scientifique du livre. Bon, donc, comme je le disais, il y a un aspect très important qui va être le lien entre le quantique et le temps, qui est une trame de fond du livre. Mais il y a un deuxième aspect très important dans le livre, qui est la physique des particules. Et donc, ce qui a déclenché... Il y a eu deux événements moteurs qui ont déclenché le livre. Le premier, ça a été... Jacques Dixmier nous a envoyé une carte postale dans laquelle il disait « J'ai l'idée du titre d'un bouquin ». Et puis, il avait une partie du scénario. Et son titre, c'était « Boson sur le boson ». Alors, à l'époque, je travaillais d'arrache-pied avec mon collaborateur Chamseddine sur un boson dont il est question dans le livre et qui joue un rôle important dans le modèle de physique des particules sur lequel on travaille. Et donc, j'ai été tout à fait étonné en me disant « Mais c'est incroyable à quel point Jacques Dixmier suit de près le travail qu'on est en train de faire. » Et comme j'avais rencontré Étienne Klein peu de temps avant et que Étienne Klein m'avait donné l'une de ces anagrammes qui sont extraordinaires, je me suis empressé de répondre donc à Jacques Dixmier avec cet anagramme dont la moitié fait le sous-titre du livre. C'est l'horloge des anges ici-bas, qui a bien sûr très haut temps. Et comme cette phrase, l'horloge des anges ici-bas, est l'anagramme parfaite de le boson scalaire de Higgs, il y avait quelque chose qui commençait à se produire. Alors ça, c'est la première allumette, si vous voulez, qui a déclenché l'écriture du livre. La deuxième allumette qui a tout déclenché aussi, ça n'aurait pas suffi au début, puisque bon, on aurait pu s'en tenir là. On avait répondu à Jacques Dixmier avec cet anagramme. On aurait pu dire, bon, ben, évidemment, on a du boulot, etc. Mais ensuite, ce qui s'est produit, c'est une visite à Venise de l'exposition « L'éloge du doute », on ne peut pas faire mieux comme titre, à la Punta della Dogana, dont le seul titre avait suffi à nous enchanter, ainsi que les bâtiments qui ont été restaurés de manière extraordinaire. Mais bien sûr, le contenu, c'est de l'art moderne. Et l'art moderne a cette propriété assez spécifique, vraiment presque unique pour l'art moderne, c'est que le contact avec l'œuvre qui nous a déclenché, peut-être, on peut qualifier l'œuvre d'assez morbide. L'œuvre s'appelle Hall, c'est de Catalan. Et bon, qu'est-ce qu'on voit? On voit 9 suaires allongés par terre, ils sont en marbre blanc. Bon, mais ce qui est extraordinaire, justement, et qui est une propriété, je pense, générique de l'art moderne, c'est que bien que cette œuvre ait un aspect morbide, en fait, c'est un déclencheur d'une force intérieure et d'une force créatrice chez celui qui la regarde. Donc, c'est ce deuxième événement qui a joué un rôle absolument majeur et qui a fait que, finalement, le livre s'est enclenché.
Alors, le livre s'est enclenché, il existe. Étienne Klein, vous en avez parlé hier lors de votre chronique dans les matins de France Culture. Quelle a été votre première réaction à sa lecture ?
Bon, d'abord, c'est un livre qui ne ressemble à aucun autre. C'est même un nouveau style littéraire. C'est presque une fantaisie qui entremêle la physique, la fiction, la littérature, l'art, comme ça vient d'être dit par l'inconnu lui-même. Et personnellement, j'ai pas pu le lâcher des mains, puisque même si je ne crois pas qu'on puisse raconter l'histoire à ce micro, faut pas en dévoiler l'intrigue notamment.
On va essayer de s'interdire.
Vous avez noté que c'est un livre qui parle de toutes les thématiques qui personnellement m'intéressent, c'est-à-dire la physique quantique, le LHC, le CERN, le temps, la vie, la mort, la jalousie entre collègues et même l'amour. Et donc c'est un livre qui contient une sorte de force irrésistible. Et comme il a été écrit par trois auteurs et qu'on parle de physique quantique où le principe de superposition est maître, je voulais savoir et poser la question à Alain Cohn, qui a tenu la plume ?
Alors justement, on s'est bien promis entre nous trois de ne jamais dire qui avait écrit quelle partie du livre. Et en fait, j'aime bien l'analogie suivante, si vous voulez. Ce qui s'est produit, c'était assez incroyable. C'est que, bon, à aucun moment, on a eu à se poser la question, comment est-ce qu'on va continuer? Quand on a commencé, on n'avait pas du tout le scénario. Mais le scénario s'est construit de lui-même.
Vous êtes parti de cette exposition, d'ailleurs.
On est parti, oui. Enfin, disons que, comme je le disais, ça, c'est
comme décor, initial.
On est parti de cette exposition, bien entendu. Mais à aucun moment, on s'est posé la question, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on va continuer ce bouquin? Non. C'est ça qui était incroyable. Je rajoute quand même que Jacques Dixmier n'a pas d'email et il n'a pas d'ordinateur. Donc, on communiquait par lettres. On communiquait par lettres et par des coups de téléphone de temps en temps. Et puis, bien sûr, on allait le voir. Donc, c'est un livre qui a été conçu, on pourrait dire, presque à l'ancienne, d'une certaine manière.
Par intrication ?
Par intrication, oui, c'est ça. Il y a une intrication quantique, d'ailleurs. Bon, dans le livre, on donne cet exemple merveilleux d'intrication quantique entre trois états et pas entre deux états, ce qui est beaucoup plus intéressant. Entre
ça intervient dès les premières pages.
Ça intervient dès les premières pages. Et alors, la comparaison qui, je pense, trahit le mieux la manière dont nous avons collaboré, c'est une comparaison que j'aime beaucoup, c'est, si vous voulez, trois coureurs cyclistes qui sont en train de gravir un col, et il y en a toujours un en tête, mais c'est jamais le même, et à aucun moment, celui qui est en tête ne doit faire signe à celui qui est derrière de le relayer, c'est-à-dire ça s'est fait comme ça, ça s'est fait automatiquement.
Alors pour tout dire aux auditeurs, oui. Le troisième co-auteur qui est Dany Chéreau n'est autre que votre épouse.
Oui.
Qui est d'ailleurs avec nous aujourd'hui dans le studio, et qui donc a apporté sa contribution littéraire à l'œuvre.
Bien sûr, mais je veux dire, on s'est promis que l'on ne ferait pas de distinction entre qui a écrit quoi, mais c'est bien évident.
Dommage pour Étienne qui
n'aura
pas
la
superposition du coup, en tout cas pour le lecteur, c'est une superposition.
Vous avez utilisé déjà un très gros mot, intrication, qu'il faudra peut-être expliquer en deux mots si c'est possible. Non, ça ne l'est pas, mais on va essayer, Étienne.
Ah, mais c'est une des propriétés que la physique quantique a permis d'exhiber, c'est-à-dire que des particules qui ont été corrélées dans le passé peuvent garder une sorte de corrélation à distance qui demeure, quelle que soit la distance qui les sépare. Et c'est une corrélation qui est plus forte que toutes les corrélations qu'on peut expliquer par la physique classique.
Alors les corrélations, ça a été un des problèmes du début de cette émission. On avait du mal à la créer avec Aix-en-Provence,
oui.
Où se trouve un autre personnage du livre,
oui.
Carlo Rovelli.
Oui.
Carlo Rovelli qui est physicien italien, spécialiste de la gravité quantique,
oui.
Qui est donc, rien que le titre déjà
oui.
pose problème,
oui.
puisque c'est
oui.
Deux mots qui sont complètement... étrangers l'un à l'autre pour l'instant, et
oui.
lui travaille sur leur réunion. Il est professeur oui. à l'Université de la Méditerranée.
Oui, oui. Je voudrais quand même raconter un peu, on en parle dans le livre, ma rencontre avec Carlo, qui s'appelle dans le livre Il Vero. Donc,
et Carlo aussi,
Rovelli,
oui.
bien sûr. Carlo quand même. Donc, cette rencontre était tout à fait étonnante parce que, justement, donc, j'avais toujours gardé, après ma thèse, j'étais toujours un petit peu mélancolique du fait que ce travail qui montrait que l'algèbre non commutative, alors il faut que j'explique quand même un tout petit peu ce que c'est, si vous voulez, il y a une découverte qui est, on peut le dire, la vraie découverte de la mécanique quantique. Alors, bon, il y a des grands découvreurs de la mécanique quantique, il y a Planck, il y a Einstein, etc., etc., il y a Bohr, bon, il y a... Mais il y a eu un moment où il y a eu une cassure, une vraie cassure avec... comment dire, l'image mentale que l'homme a du classique. Et cette cassure, elle s'est produite à un moment donné, s'est produite en 1925 par un physicien allemand qui est Heisenberg. Et Heisenberg était un très jeune physicien qui essayait de faire des calculs sur les spectres atomiques. Et ce qui s'est produit, donc, c'était que vers le mois de mai de 1925, Heisenberg, à un moment donné, a eu une allergie terrible parce qu'il avait le rhume des foins. Et il ne pouvait plus travailler là où il était parce qu'il était vraiment très, 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 très malade. Et son université a décidé de le dispenser de cours et de l'envoyer pour 15 jours dans une île au nord de l'Allemagne. Qui est une île connue, elle s'appelle l'île d'Heligoland, qui est une île connue pour ne pas avoir du tout de pollen parce qu'il n'y a pas d'arbres, il y a très peu de sources de pollen sur cette île. Donc il était logé par une vieille dame, et puis évidemment un scientifique qui se retrouve seul comme ça, et il travaille. Donc Heisenberg cherchait, il avait pensé bien sûr que le problème qu'il essayait de résoudre était trop difficile, alors il y a une stratégie bien connue des chercheurs, c'est quand un problème est trop difficile, on prend un problème analogue, mais simplifié, plus facile. Donc Heisenberg avait regardé un problème simplifié, et sur ce problème simplifié, il avait compris quelque chose d'extraordinaire, qui était qu'il fallait prendre comme quantité observable de la physique seulement ce qui était donné par l'expérience. Et ce qui était donné par l'expérience, c'était la manière d'indicier les quantités observables par deux indices. Alors, il avait réfléchi, et puis il avait commencé à élaborer une théorie, mais elle lui semblait, bien sûr, comme toujours, quand un chercheur essaye de trouver une nouvelle théorie, il est toujours effrayé par la possibilité d'une contradiction. Donc, il était effrayé par la contradiction qui aurait été que l'énergie n'était pas conservée. Donc, il a fait des calculs pendant des heures et des heures et des heures, et puis une nuit, à 3 heures du matin, il a trouvé que sa théorie était cohérente. Et à ce moment-là, il le décrit lui-même. Et bien sûr, il a eu ce genre d'illumination qui lui a fait voir tout d'un coup tout un paysage que lui a trouvé. Il était plus effrayé qu'autre chose devant les conséquences incroyables de ce qu'il avait trouvé. Et sa réaction, ça a été l'île est bordée de rochers assez hauts. Sa réaction a été d'aller gravir un de ces rochers et d'attendre le lever du soleil en haut de ce rocher. Alors, pour en revenir à mon propos, donc qu'est-ce qu'a trouvé Heisenberg ? Heisenberg a trouvé vraiment quelque chose d'incroyable, qui est que lorsqu'on fait des calculs en physique avec des systèmes microscopiques, comme les systèmes quantiques, donc les systèmes qu'analysait Heisenberg, eh bien, on est obligé d'être beaucoup plus précautionneux que lorsqu'on fait de l'algèbre ordinaire. Quand on fait de l'algèbre ordinaire, on manipule des lettres. Et puis, si par exemple, on a A, B, A, eh bien, on va écrire ça A carré fois B. Bon. Quand on fait de la mécanique quantique, c'est ce qu'a découvert Heisenberg, c'est ce qu'on appelle la mécanique des matrices, eh bien, il faut faire beaucoup plus attention, c'est-à-dire on n'a pas le droit de faire passer le A qui est au bout devant. Or, ça, c'est exactement ce qui se passe lorsqu'on a une anagramme, c'est-à-dire lorsqu'on a, en fait, par exemple, l'exemple dont je parlais tout à l'heure, qui est l'horloge des anges ici-bas. Si on regarde l'horloge des anges ici-bas ou le boson scalaire de Higgs à la manière dont on fait de l'algèbre de manière classique, on obtiendra la même chose. Alors ce qu'Heisenberg a trouvé, et ça c'est une découverte extraordinaire, c'est vraiment là qu'il y a eu une cassure, il a découvert que lorsqu'on faisait de la physique quantique, lorsqu'on s'intéressait à des systèmes microscopiques, on ne pouvait pas faire cette simplification. Alors, pour en revenir donc à mon travail, ce que j'ai fait, c'est, dans ma thèse, j'ai montré, si vous voulez, qu'il suffit qu'une algèbre telle que les algèbres avaient été conçues par von Neumann à la suite d'Heisenberg pour formaliser la mécanique quantique dès 1927. Hein, donc Heisenberg, c'était en 1925. En 1927, déjà, von Neumann avait formulé ce que devaient être les algèbres d'opérateurs. Eh bien, en fait, une telle algèbre d'opérateurs va engendrer son propre temps. Alors, évidemment, si vous voulez...
On va y revenir parce que on entre vraiment dans un univers extraordinaire. Je voudrais quand même accueillir Carlo Rovelli, qui est avec nous depuis Aix-en-Provence. Est-ce qu'il nous entend ?
Oui, je vous entends.
Bonjour. Formidable.
Bonjour,
voilà,
bonjour Alain. Désolé pour le retard. Ici, c'est la Provence. On prend
salut Carlo. Salut Carlo.
Pas de problème. Salut. L'essentiel, c'est qu'on vous entende. Alors, vous avez lu, j'imagine, le livre également ?
Oh, bien sûr, j'ai lu le livre. Je me suis régalé.
Alors, comment vous l'avez ressenti ? Comment vous jugez cette entreprise de créer une histoire, un roman, alors même si, effectivement, le terme peut être discuté, autour de notions comme celle-ci et de notions avec lesquelles vous êtes évidemment très familier, puisque, comme on l'a dit, vous apparaissez dans le livre ?
Deux choses. Le livre, en soi, je me suis régalé. C'est une très belle histoire. C'est une histoire avec quelque chose qui semble meurtre. Il y a plein de mystères, plein de choses qui vont se découvrir. Mais ce n'est pas ça ce que m'a fasciné. Ce que m'a fasciné, c'est bien sûr cet effort de prendre la magie de la physique d'aujourd'hui et chercher de la raconter. Chercher de raconter le fait central que la science, la physique en particulier, nous raconte que le monde, ce n'est pas le monde que nous connaissons usuellement. C'est beaucoup plus, c'est différent, c'est beaucoup plus mystérieux. C'est très beau. Et c'est difficile à raconter. Et donc, j'ai essayé de faire de la divulgation, de raconter la mécanique quantique. Beaucoup de gens ont cherché de le faire. Mais là, c'est une façon de la rendre, de raconter pas seulement la mécanique quantique, mais aussi ce que viennent après les choses. Donc, Alain était en train de parler, l'origine du temps, la réalité des choses. Chercher de raconter de façon narrative... cette réalité du monde qui est au-delà de notre vision quotidienne du monde, qui est le vrai monde finalement, et qui est si difficile à saisir. Et je pense que le roman le fait, nous amène dans le mystère, dans ce qu'on comprend et aussi dans ce qu'on ne comprend pas. C'est ça la beauté aussi. Ça ne nous donne pas une histoire fermée sur la nature. Ça nous raconte qu'on comprend ces choses, on voit ces choses, mais il y a plein d'autres qu'on croit de voir, on a l'idée de voir, mais on n'est pas sûr.
Je vous rappelle que vous écoutez Science Publique sur France Culture en direct depuis le studio 1061 de la Maison de la Radio. Nous débattons autour de la question « Le théâtre quantique est-il ouvert à tous ?» avec Alain Cohn, mathématicien, Médalfis 1982 et auteur du roman intitulé « Le théâtre quantique » qui vient d'être publié aux éditions Odile Jacob. Et nous sommes depuis quelques minutes avec Carlo Rovelli, physicien italien, spécialiste de la gravité quantique et qui est en duplex avec nous depuis Aix-en-Provence, et bien entendu avec Étienne Klein, physicien au CEA et spécialiste du temps. Alors le temps, vous venez d'en parler, Alain Cohn, une algèbre qui engendre son propre temps. Alors là, ça demande peut-être un mot d'explication.
Oui, alors ce que je veux faire justement, c'est vous expliquer un petit peu, en résumé, le parcours qui a mené au livre, puisque finalement c'est ça qui est derrière. Donc le fait qu'une algèbre engendre son propre temps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si vous voulez, qu'en gros, le fait que vous n'autorisiez pas de permuter les lettres, le fait que vous fassiez plus attention, eh bien, ça va en fait très loin, parce que ce qu'a trouvé Heisenberg, il a trouvé que finalement, ce qu'on appelle l'espace des phases en mécanique n'est pas un espace commutatif. Vous voyez, quand Descartes a découvert...
On ne voit pas bien, mais...
Non, mais je vais expliquer. Quand Descartes a formalisé la géométrie, bon, on peut l'apprendre de manière visuelle, on peut l'apprendre par des axiomes, mais Descartes avait finalement réduit la géométrie à l'algèbre. Donc il avait expliqué qu'on pouvait parfaitement démontrer des théorèmes, par exemple. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que si vous voulez démontrer, par exemple, que les diagonales d'un triangle se coupent en un point, etc., eh bien, à ce moment-là, vous pouvez le faire de manière... en utilisant les axiomes, et vous pouvez le faire de manière visuelle. Mais si vous le faites de manière visuelle, vous aurez bien du mal à comprendre la démonstration dans un espace de dimension arbitraire. Alors que si vous le faites de manière algébrique, et que vous dites que le barycentre, il a pour coordonnées telle et telle, eh bien ça, la démonstration, elle est évidente en toute dimension. Et en plus, elle se généralise à un cadre qui est bien au-delà du cadre géométrique dont vous êtes parti. Donc, le pas franchi par Descartes est un pas énorme. Mais... ce faisant, si vous voulez, Descartes et les gens qui l'ont suivi faisaient de ce qu'on appelle de la géométrie, mais de la géométrie commutative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on utilise l'algèbre commutative lorsqu'on fait ses calculs pour le barycentre, etc.
C'est ce que vous avez expliqué sur l'inversion des termes, par exemple, dans une formule.
Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on se permet de simplifier énormément. Mais qu'a découvert Heisenberg? Heisenberg a découvert que quand on fait de la physique microscopique, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça, parce que justement, la physique impose, et il en a déduit immédiatement ce qu'on appelle le principe d'incertitude, mais la physique, la réalité physique nous impose que justement, il faille faire plus attention. Alors, mon parcours après, si vous voulez, ça a été de développer justement la géométrie dans ce cadre nouveau, qui est la géométrie non commutative, mais, comme je le disais, avant de rencontrer Carlo, j'avais toujours cette espèce de mélancolie qui consistait à dire... Bon, bien, une géométrie non commutative engendre son propre temps. C'est quelque chose qui est... Alors que la géométrie ordinaire est statique. Mais quel peut bien être le lien entre cette idée et la physique? Alors j'avais essayé, bien sûr, j'avais essayé de regarder ce qui se passe en théorie des champs, etc. Mais ça n'était jamais satisfaisant, ça ne m'avait jamais satisfait. Jusqu'au jour où j'avais été invité en 1994 à l'Institut Newton de Cambridge, parce qu'il y avait... à l'Institut Newton, un programme sur la gravitation. Bon, c'était pas un programme sur la gravitation quantique, puisque comme vous l'avez dit, pour le moment, ce sont deux entités qui sont encore assez éloignées l'une de l'autre. Mais donc, il y avait ce programme. Donc, j'ai été à ce programme. J'y étais pour apprendre. Je voulais apprendre la gravitation, etc. Beaucoup plus que je ne la connaissais à l'époque. Et j'avais été invité parce que de mon travail sur la géométrie non commutative. Et un jour, je vois qu'il y avait une conférence qui était annoncée par un physicien que je ne connaissais pas, qui était Carlo. Et Carlo avait donné un titre qui était, si je me souviens bien, Carlo me corrigera puisqu'il est là, c'était « We know what quantum space-time is ». Bon, alors évidemment, quand on donne un titre comme ça, ça veut dire que, bon, on s'attend à ce qu'il y ait une certaine discussion pendant la conférence. Carlo, c'était bien ça? Carlo
Rovelli. Oui. Vous nous entendez toujours?
Je ne sais pas si...
Vous m'entendez? Moi, je vous entends.
Oui, oui.
On fait de la provocation un peu.
Oui, oui, voilà, c'était un peu de la provocation. Alors du coup, j'étais allé à la conférence de Carlo. Évidemment, j'avais le revolver sur la table. Puis après, on a pas mal argumenté tous les deux. Et puis après sa conférence, on a discuté ensemble. Et on ne s'est pas quitté, ce n'est pas difficile, hein. Entre la conférence de Carlo, qui devait être vers 3 heures, je pense, et le repas du soir, il y avait un dîner qui était organisé, on ne s'est pas quitté une seconde. Le soir, on dînait ensemble, on était l'un à côté de l'autre. Et à un moment donné, je dis à Carlo, tu sais, Carlo, j'ai eu cette idée dans ma thèse, et puis je n'ai jamais réussi à en faire quoi que ce soit par rapport à la physique. Et alors là, Carlo, qui était assis à côté de moi, je me souviens très bien, vous savez, c'est des moments qui marquent. Je me souviens très bien de ce moment-là. Carlo est parti. Alors j'ai dit, zut, alors, vous savez comment...
Alors justement, là, aujourd'hui, pour la première fois, peut-être, on va savoir ce qui s'est passé lorsque Carlo Rovelli est parti.
Bon, maintenant, Carlo est au bout du fil.
Il va nous expliquer ce qui s'est passé, hein, donc, dans sa tête.
Carlo est parti. Voilà. Alors je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai vexé ou quoi?
Carlo Rovelli.
Oui, je me rappelle. Je me rappelle très, très bien. On était... Assis en temps. Il y avait aussi du bon vin, si je me rappelle.
Oui, il y avait aussi du bon vin.
Oui, et tout le monde autour de nous, c'était plus des anglo-saxons, donc un peu froid.
Comme, oui, absolument. Froid. C'était pas des Méditerranéens comme nous, absolument.
Non, c'était pas des Méditerranéens. Et donc, toi, tu parlais un peu de ce temps. Après, toi, tu dis, bon, non, mais c'est compliqué, j'ai cette idée. Mais moi, je voulais savoir, donc je t'avais demandé un peu plus. Mais dis-moi plus. Oui. Toi, tu avais l'air de dire oui, mais non. Bon. Donc, d'abord, j'ai écouté.
Voilà. Et puis tu es parti. Et alors Carlo est parti. Et une fois que Carlo est parti, je me suis dit, mais j'ai dû le vexer. Alors vous savez, comme des fois on envoie un mail à quelqu'un, puis on n'a pas de réponse. Alors on se dit, mais qu'est-ce que j'ai pu dire dans le mail? Donc Carlo est parti. Et puis au bout de 5-10 minutes peut-être, Carlo est revenu. Il avait dans la main deux articles qu'il avait écrits avant. Donc c'était avant, s'ils avaient écrit 2-3 ans avant. Et c'était des articles dans lesquels, par pure réflexion philosophique et physique, Carlo était arrivé à la même idée. C'était au niveau semi-classique, c'est-à-dire qu'il avait abouti à une équation. Et cette équation, c'était la limite semi-classique de l'équation que j'utilisais dans ma thèse.
Étienne Klein.
Oui, écoutez, moi, je bois du petit lait. D'abord, ce qu'a dit tout à l'heure Alain Cohn à propos de la non-commutativité et le lien qu'il a fait entre la non-commutativité et les anagrammes, ça donne aux anagrammes, qui sont souvent perçus comme un jeu très futile, une certaine promotion épistémologique. Bon. Ensuite, il a parlé de Heisenberg, et qui en effet a mis sur pied en mai de 1925 ce qu'on appelle la mécanique des matrices. Mais un peu plus tard, un autre physicien, un Britannique pour le coup, qui s'appelle Paul Dirac, a écrit son premier papier sur la physique quantique, dans lequel il dit de façon encore plus claire que la physique quantique ne sera jamais réductible à la physique classique, du fait de la non-commutativité des opérateurs liés aux mesures. Par exemple, mesurer la position d'une particule, puis mesurer sa vitesse, c'est pas la même chose que mesurer sa vitesse, puis sa position. Et donc il y a une sorte de relation d'ordre qui doit être respectée si on veut tenir compte de la spécificité du monde quantique.
Mais la question est-ce que c'est vraiment une des différences fondamentales qu'on peut dire?
C'est en fait ce que montre Dirac, c'est que c'est ça le point de départ de la différence. C'est-à-dire cette irréductibilité entre les deux formalismes vient de la non-commutativité. Alors, ce qui est intéressant dans le roman, c'est que la question que je me pose depuis presque toujours, c'est comment établir une espèce de bijection entre le formalisme de la physique quantique et puis les mots de la langue ordinaire. Et je trouve que là, ils ont trouvé à trois un mode de narration qui ne permet pas, à l'issue de la lecture, de dire qu'on a compris la physique quantique, mais en tout cas, on a eu accès à l'étrangeté d'un monde qui se distingue par beaucoup d'aspects du monde que nous avons autour de nous. Mais il y a une question que je voudrais lui poser quand même, parce que je n'ai pas trouvé la réponse dans le livre. C'est que moi, je comprends bien la relation qu'il vient de dire, d'ailleurs, entre l'ordre obligatoire, entre les termes qu'implique la non-commutativité. AB, c'est pas BA. Donc, quand on écrit la suite des lettres, on doit faire attention au respect de cet ordre. Et donc, on voit bien qu'il y a un lien entre non-commutativité et ordre. Mais comment est-ce qu'on passe de l'idée d'ordre, celui que je viens de dire, à l'idée d'un ordre chronologique? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on arrive à temporaliser ce qui se donne par une écriture qui est simplement respectueuse d'un ordonnancement des termes?
Oui. Ah ben c'est, évidemment, là, j'ai pas envie de tomber sur le plan technique, mais en gros, ce qui se passe, c'est que, en gros, quand on permute X et Y, il va se produire une transformation sur l'unité de variable qui va être l'évaluation au temps purement imaginaire. Donc c'est ça, en gros. Hein. C'est dit de manière un peu grossière.
Comme ça, je l'ai lu par ailleurs. Mais, bien sûr. Mais dans le roman...
D'accord. Bien sûr. Mais disons qu'il y a un autre aspect qui est aussi extrêmement important et dont vient de parler Étienne et qui joue un rôle crucial dans le livre, dans cette explication, si vous voulez, de l'apparition du temps et qui, à mon avis, est encore largement aussi important que l'aspect mathématique dont on vient de parler. C'est l'aspect suivant, c'est-à-dire que c'est la notion de variable. Vous voyez, ce qui se produit dans le quantique, au niveau expérimental, et qui n'a absolument aucune contrepartie dans le classique, c'est la chose suivante, c'est qu'il y a certaines expériences, comme par exemple lorsqu'on fait passer un électron dans une fente de diffraction qui a une taille très très petite de l'ordre de la longueur d'onde de l'électron, eh bien, ce qui se produit donc, c'est que on ne peut absolument pas prédire à quel endroit d'une cible placée après la fente de diffraction l'électron va arriver. C'est quelque chose de très simple. C'est beaucoup plus simple que l'expérience avec deux fentes, etc. Donc, on ne peut... Et c'est pas seulement qu'on ne peut pas prédire le résultat. C'est que on ne peut pas le reproduire. C'est-à-dire que quelle que soit la précision expérimentale avec laquelle on va envoyer l'électron, on va connaître, on ne va pas pouvoir reproduire le résultat. Et ça vient de Heisenberg, ça vient du principe d'incertitude et ça vient de la non-commutativité. C'est-à-dire que ce genre de phénomène qui est entièrement nouveau, qui n'a pas d'analogue dans le classique. Alors, il y a des gens qui vont vous dire, oui, mais il y a des systèmes chaotiques et ça sera difficile de prédire. Non, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Là, il y a une variabilité qui est intrinsèque et qui est absolument fondamentale.
Voilà, ce qu'on appelle chaos, souvent, c'est une incapacité
non.
À
oui, bien sûr. Mais là, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que c'est pas du tout la même chose. Et alors, la thèse centrale du livre, c'est pas seulement ce qu'on a fait avec Carlo, après le travail que j'avais fait au départ, etc. Non, il y a autre chose. La nouvelle idée dans le livre, c'est que, normalement, nous tous, en tant qu'êtres humains, nous attribuons la source de la variabilité au passage du temps. C'est-à-dire que nous pensons, et nous écrivons toutes les équations d'ailleurs, comme des équations différentielles en fonction du temps. Et nous considérons que s'il y a une chose dans l'existence que nous ne contrôlons pas, c'est le passage du temps. C'est une chose qui nous échappe. Or, quelle est la thèse du livre ? La thèse du livre, c'est qu'il y a une variabilité qui est plus fondamentale que le passage du temps, qui est plus primordiale que le passage du temps. Et c'est précisément la variabilité qui est dans cette indétermination quantique. Dans le fait que l'on ne peut pas reproduire.
Ça sous-entend que le temps est secondaire.
Le temps est secondaire par rapport à cette indétermination quantique.
Mais est-ce que vous iriez jusqu'à dire que se situe là le moteur du temps ?
Oui, alors, c'est très important de voir que, justement, mathématiquement, j'ai évolué comme ça. C'est-à-dire qu'après avoir rencontré Carlo, on a écrit ensemble un article, etc. Il y avait un autre problème qui m'avait toujours préoccupé. Et qui était le problème, on pourrait dire, des infinitésimaux en mathématiques.
Attendez, avant que vous poursuiviez, peut-être qu'on pourrait avoir le point de vue de Carlo Rovelli sur cette question du temps.
D'accord.
Carlo Rovelli.
Oui, moi je suis arrivé au problème du temps par un autre parcours, comme dit Alain, en passant à la relativité générale, à la théorie d'Einstein, l'espace-temps courbe, et dans tous les problèmes qui ont à voir avec la mettre ensemble la relativité générale, la théorie d'Einstein et la mécanique quantique. Et là, ce qui se passe, je me suis aperçu, tout le monde le sait, que de façon naturelle, on arrive peut-être à résoudre ce problème beaucoup mieux si on oublie le temps totalement. C'est-à-dire si on cherche d'écrire des équations sans faire référence au temps. Donc, ça, c'était une bonne réponse, satisfaisant, parce que finalement, il y a plein de notions en physique qui disparaissent quand on regarde les choses plus généralement. Par exemple, le haut et le bas, par exemple, le chaud et le froid, n'existe pas à un niveau mécanique fondamental. Le haut et le bas existent parce qu'on est ici sur la Terre, il y a une masse à côté de nous. Et donc le temps aurait pu faire quelque chose comme ça, aurait pu être quelque chose qui émerge plus tard. très bien, mais il y a un problème. Comment le temps émerge? Et donc, c'était ça la question que je me posais. Et finalement, la piste que j'avais suivie, je me suis rendu compte, après avoir rencontré Alain, que c'était exactement pointé vers la non-commutativité quantique, même si ma première version n'était pas quantique. Ça faisait utiliser une structure non-commutative qui est la limite classique de la théorie quantique. C'est techniquement les parenthèses de Poisson de la soie de face. Alors, là, je pense que Alain dit quelque chose de très intéressant, de très profond, quand il trace cette variabilité fondamentale quantique. Je voudrais raconter très vite une autre histoire qui revient à Heisenberg. Heisenberg, je pense, est le vrai héros de la mécanique quantique. Lui, il a fait ce travail mathématique, 25, où pour la première fois il a des variables non commutatives, et après il a commencé à se demander qu'est-ce que ça veut dire. Et il raconte, quelques années plus tard, deux ou trois années plus tard, il a fait le travail sur le fait qu'on ne peut pas mesurer position et vitesse au même moment pour une particule, et il raconte comment il est arrivé à ça. Il raconte qu'il était à Copenhague, et il y avait, c'était la nuit, et il avait l'habitude de sortir la nuit, évidemment, il était quelqu'un qui aimait la solitude, et se promener dans le parc. Il y a un parc derrière l'Institut de physique de Copenhague. Donc le jeune, il était très jeune, hein, il a 25 ans quand il est en train de faire ce genre de choses. Comme Einstein, il avait 25 ans quand il a fait la relativité la première fois. Et donc Heisenberg se promène dans la nuit, et le parc est très sombre, et il y a seulement quelques lumières ici-là, et il voit un homme. Un homme qui se promène, et finalement, il ne voit pas l'homme qui se promène, il le voit apparaître sous une lumière, et après disparaître dans l'arrière, on ne le voit pas, et après apparaître sous une autre lumière, et comme ça, deux ou trois fois, jusqu'à ce que ça disparaisse dans l'arrière. Et donc, il se dit, cet homme, c'est un objet gros, lourd, évidemment, il n'est pas vraiment en train d'apparaître et disparaître, je sais reconstruire sa trajectoire d'un point à l'autre. Et là, il y a un flash. Et il se dit, oui, mais cet homme est lourd, mais qu'est-ce que j'en sais des petites particules? Est-ce que les petites particules, un électron, quand je le vois là, ici, je le vois là, est-ce que vraiment il existe le long de tout le parcours? Qu'est-ce que j'en sais? Est-ce que là, je peux reconstruire sa trajectoire? Et se rendre compte que sa physique, sa non-commutativité, fait référence exactement à rendre la physique plus légère. Il transforme la vision classique, où il y a des choses qui sont toujours là, une vision beaucoup plus légère, qui est la mécanique quantique, où les choses apparaissent ici, là, et existent seulement au moment où il y a une interaction avec quelque chose d'autre. Et entre les deux, il y a une indétermination, il y a une variabilité, il n'y a pas possibilité d'une prédiction exacte, et c'est dans cet espace nouveau de liberté, il y a moins de choses en physique quantique qu'en physique classique, qu'il y a la variabilité quantique, et probablement Alain l'a profondément raison, c'est là le moteur du temps, comme dit Étienne avec une très belle expression.
Alors le moteur du temps, cette émergence et puis la capacité de prédire ou pas, c'est une chose, ça c'est déjà énorme, mais une des conséquences qui est très présente dans le livre aussi, c'est la question du passé et du temps passé.
Oui.
Et qui, là aussi, se retrouve un petit peu bousculé.
Oui, alors là il faut que je raconte une histoire.
Carlo, vas-y.
Juste une chose très vite. En lisant les livres, alors en principe, je devrais être scientifique, connaître le travail, et surtout connaître le travail d'Einstein, qui est ma référence principale pour faire la gravité. Mais en lisant les livres, j'ai trouvé une référence à un travail d'Einstein, que je ne connaissais pas, donc je suis allé le chercher de suite, et j'étais étonné, c'est un extraordinairement beau travail d'Einstein, où il fait voir que la mécanique quantique donne non pas seulement une incertitude dans la prédiction du futur, mais aussi dans la reconstruction du passé. Je ne le connaissais pas, ça m'a ouvert une fenêtre nouvelle, et donc je me suis mis à travailler dans cette direction aussi. Et je m'arrête là et je laisse la parole à Alain.
Oui, absolument. Alain, je veux dire, merci Carlo de rappeler cela, parce que effectivement, je veux dire, ce livre est l'occasion de temps en temps de mettre en évidence des épisodes des premiers moments de la mécanique quantique. Et maintenant, peu de gens se rendent compte à quel point les découvreurs de cette mécanique ont été pas seulement troublés, ils ont été perturbés. Einstein a, semble-t-il, réfléchi peut-être 10 fois plus à la mécanique quantique qu'à la relativité, à la relativité générale. Et on n'est pas assez conscient de l'importance des événements qui se sont produits et des discussions philosophiques que les gens avaient à l'époque. Et ça, je pense que c'est très très important parce que les gens prenaient le temps. Heisenberg, quand il écrit ses mémoires, explique à quel point justement il avait des discussions philosophiques avec Einstein, avec Dirac. Je rappelle que Heisenberg a fait le trajet entre la côte ouest des États-Unis et le Japon dans le même bateau que Dirac. Dirac était connu pour parler peu, mais je pense, bon, enfin, ils ont eu pas mal de discussions philosophiques. Donc, et quand même à propos de cette indétermination du passé, dans le livre, cet épisode vient après un épisode qui est également très très important et qu'on aurait tendance à négliger aussi parce que c'est un des rares épisodes dans lequel la théorie de la relativité générale d'Einstein se trouve mélangée au quantique. Et je peux pas, on le raconte en grand détail dans le livre, mais je peux quand même pas résister à la tentation de rappeler cet épisode parce que c'est Charlotte qui, dans son sommeil, se souvient de en fait, elle se souvient grosso modo de cette photo. Il y a une fameuse photo, il y a plusieurs photos d'Einstein qui sont très frappantes, mais il y en a une où on le voit sortant d'un congrès Solvay, suivi de Bohr. Alors, il faut savoir que dans la séance de ce congrès Solvay qui s'était produite, c'était en 1930, Einstein était arrivé avec, il avait dans sa poche, comme on dit d'habitude, une expérience de pensée, mais son expérience de pensée était censée contredire le fameux principe d'incertitude de Heisenberg, qui, lui, le rendait extrêmement, le dérangeait énormément, puisqu'il disait « Dieu ne joue pas au dé ». Donc Einstein avait imaginé un petit mécanisme dont il avait le secret, et ce petit mécanisme, c'était un coucou, qui était suspendu à un petit ressort. Et puis, dans les expériences de pensée, on extrapole, hein, ça revient à ça, et on simplifie la situation au maximum. Mais l'idée qu'avait Einstein, c'était qu'on pouvait contredire l'une des formes du principe d'incertitude. Donc tout à l'heure, on parlait du principe d'incertitude qui disait qu'on ne pouvait pas mesurer le moment et la position d'une particule. Il y a une autre forme du principe d'incertitude, mais qui est semblable, qui consiste à dire qu'on ne peut pas mesurer l'énergie et le moment précis d'un événement avec une précision supérieure au fait que delta T, delta E soit plus grand que H bar. Alors Einstein avait imaginé un petit système où il avait un petit coucou. Le petit coucou émettait un photon à un moment donné et le moment était l'instant précis où il émettait le photon était gravé dans le marbre puisque c'était l'horloge qui le donnait. Et on pesait le coucou avant et après. On le pesait parce qu'il était pendu à un ressort. Il avait une petite aiguille qui donnait son poids. Et du coup, on pouvait savoir quelle était l'énergie du photon. Pourquoi l'énergie? Parce que E égale MC2, etc. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que quand Einstein a dit ça, qu'il a proposé son expérience de pensée au congrès Solvay, tout le monde était abasourdi et ils se sont dit il a gagné. Pourquoi il a gagné? Il a gagné parce que dans les calculs, quoi qu'on fasse, il y aura la constante de gravitation. Donc on pourra toujours essayer d'obtenir H bar. On n'a absolument aucun risque de trouver H bar. Alors, c'est pour ça qu'on voit sur la photo Bohr qui marche derrière Einstein, l'air complètement décontenancé. Et en fait, la vraie histoire, c'est que Bohr ne s'est pas laissé impressionner, il ne s'est pas avoué vaincu, et il a travaillé pendant toute la nuit, et il est revenu le lendemain avec une idée absolument géniale, qui était la suivante. Il a dit à Einstein, d'après la théorie de la relativité générale, le temps ne passe pas de la même manière selon la hauteur de l'horloge. Puisque selon la relativité générale, le coefficient de dt carré dans les équations dépend du potentiel newtonien et donc va changer. Et quand on fait le calcul, on s'aperçoit que la constante de gravitation s'élimine et on obtient la relation d'incertitude de Heisenberg, ce qui est absolument phénoménal. Pourquoi ? Parce que finalement, Bohr avait vaincu Einstein avec la théorie de la relativité générale. Si on avait été au moment de la relativité restreinte, il n'aurait pas pu trouver cette idée.
Étienne Klein, sur la modification de la conception du temps qu'on a, via la mécanique quantique dont on vient de parler?
Alors déjà, je voulais dire que la mécanique quantique, d'après ce que raconte Alain Comte, c'est quand même le produit de plusieurs nuits blanches de différents acteurs. Ensuite, à propos de l'argument que Bohr, je crois que c'était en 27 et non pas en 30. Hein.
C'était en 30.
Alors voilà une incertitude qui est levée. J'ai jamais compris quelle était la portée épistémologique de cet argument. Oui, c'est-à-dire comment on peut sauver le principe d'incertitude dans le cadre de la mécanique quantique avec un argument qui vient de la relativité générale.
Alors qu'elle n'est pas compatible avec elle.
Donc, épistémologiquement, c'est quand même un truc très, très difficile à comprendre.
Peut-être un mot de...
Oui, je dis quand même un mot. C'est que pour moi, ça a toujours été une petite porte un tout petit peu entrouverte vers la compatibilité entre les deux.
Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est un argument qui a convaincu Einstein.
Oui.
Alors, Carlo Rovelli, peut-être, parce que c'est notre grand spécialiste aujourd'hui de la relativité générale.
C'est une très belle histoire, cet argument. Il a convaincu Einstein, donc Einstein croyait d'avoir gagné, et là, le jour après, il a déclaré sa défaite. Et finalement, il avait tort, parce qu'Étienne a raison. Ce n'est pas vrai que sans la relativité générale, la mécanique quantique soit incohérente. Et la réponse est beaucoup plus subtile. Et finalement, tous les travaux suivants d'Einstein sur les arguments... EPR, ce qu'on appelle l'EPR, donc la corrélation quantique, vient de là. La vraie réponse à cet argument n'a rien à voir avec la relativité générale, à voir avec l'intrication quantique. Et Einstein a cherché de trouver une solution, une façon différente de voir les choses qui a amené à tout ce qu'on fait aujourd'hui en intrication quantique. Mais je pense que la chose plus belle de cette histoire, c'est la fin, parce que, au moins pour ceux qui étaient les protagonistes de cette histoire, quand Bohr est mort, les années 50, beaucoup plus tard, on a pris une photo du tableau noir qu'il avait dans son bureau et quelqu'un a remarqué que ce qu'il avait dessiné, c'était la boîte avec le coucou de l'espérance de lumière.
Donc ça l'avait fortement impressionné.
20 ans après, il était encore là, qu'il réfléchissait. Je suis sûr qu'Einstein aussi, ils étaient là, qu'il réfléchissait.
Ouais, absolument, Étienne Klein.
Et ça, c'est la force de ces géants de la physique.
Ouais, pour en revenir au livre, moi j'ai eu la même Etienne surprise, Klein, entre guillemets, que celle que Carlo a indiquée tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a un passage où j'ai eu l'impression que je décrochais, c'est quand on montre, rappelant les arguments d'Einstein, qu'en mécanique quantique, le passé est indéterminé. Et ça, j'ai vu une sorte de contradiction entre le fait que, d'un côté, on prétend avoir saisi le moteur du temps, c'est-à-dire d'irréversibilité du passage du temps, avec l'idée que, pour autant, le passé n'est pas joué complètement.
Bien sûr.
Et alors, j'ai vu là une contradiction entre le principe de causalité,
bien sûr,
qui dit que le passé, finalement, étant passé, ne peut plus être modifié, et puis le fait d'avoir reconnu une existence, même si elle est secondaire, du temps qui passe.
Oui, mais justement parce qu'elle est secondaire. C'est justement parce qu'elle est secondaire. C'est-à-dire parce que le temps émerge. Et que, justement, ce que l'on dit, c'est qu'on fait toujours une erreur. L'homme a une obsession historique. C'est-à-dire l'homme veut toujours une obsession chronologique. C'est-à-dire l'homme veut toujours reconstruire un passé cohérent. C'est ça son obsession, en fait. D'accord ? Alors, ce que l'on dit dans le livre, c'est précisément cela. C'est-à-dire que ce qui est plus fondamental, c'est la variabilité quantique. Alors, typiquement, des expériences du choix retardé ou des choses comme ça. Alors, l'homme va essayer de les réécrire en les repensant de manière classique et de manière chronologique, ce qui, évidemment, est contradictoire. Bon. Mais d'un autre côté, ça n'empêche pas que, comme Étienne le disait dans sa chronique, l'univers a un certain âge, etc. Donc, il y a un temps global. Alors, il y a un tas de questions qui se posent.
Il y a une perte d'informations ?
Comment ?
Il y a une perte d'informations qui fait que...
D'informations, non, parce que c'est un temps thermodynamique. Donc, il y a forcément de l'information qui se perd.
Mais il faut un bain thermique.
Comment ? Il y a un bain thermique, bien sûr. Et alors, le bain thermique...
C'est le fond diffus.
C'est le fond diffus. Et ça, c'est exactement ce que dit Armand Laforêt dans le livre. C'est-à-dire, Armand Laforêt donne sa conférence et il explique un contenu
thermique. Il faut dire qu'il c'est un personnage du livre.
C'est un personnage du livre.
Qu'on a facilement reconnu.
Il va devenir célèbre.
Mais je veux dire, effectivement, il y a un certain nombre de choses qu'il faudrait expliquer techniquement, mais ça prendrait trop de temps, bien sûr. Mais l'idée essentielle, c'est que justement, le temps ressenti, c'est un temps thermodynamique et c'est un temps qui vient de la température, c'est-à-dire qui vient du fait que l'on vit dans un état de température. Mais ça c'est un phénomène émergent. D'accord. Et il y a quelque chose de plus fondamental. L'idée fondamentale, c'est qu'il y a quelque chose de plus primitif. Il y a une variabilité beaucoup plus primitive, qui est la variabilité du quantique. Alors, évidemment, comme notre esprit a été habitué, je pense, par la sélection naturelle, à essayer justement de penser les choses en termes classiques et en termes chronologiques. Donc on a du mal, on a beaucoup de mal à se séparer de cette habitude qui nous imprime, qui nous pénètre totalement, je veux dire.
En même temps, qu'est-ce que ça change sur notre conception du temps, bon, ce à que la ça fois change, passé et à venir?
Non, bien sûr, il faut continuer à penser dans le temps ordinaire, mais ce que l'on explique dans le livre, c'est que certains paradoxes, comme les paradoxes qui viennent de ce qu'on appelle la réduction du paquet d'ondes, justement, c'est des choses qui peuvent apparaître paradoxales, en particulier pour les états intriqués ou des situations comme ça, ou par exemple des phénomènes de choix retardés, comme racontait Wheeler, lorsqu'on fait interférer des photons avec un milliard d'années, etc. C'est des choses qui apparaissent contradictoires simplement parce que justement on veut les inscrire dans le temps. Donc c'est comme ça qu'il faut penser.
C'est-à-dire qu'au niveau quantique, la notion de temps est...
Elle est émergente, mais elle n'est pas aussi fondamentale qu'elle est dans notre formalisme classique, dans lequel normalement on écrit toutes les équations en forme d'équations différentielles. C'est ce que disait Carlo tout à l'heure. Ce qui est incroyable, c'est que Carlo avait réfléchi philosophiquement en se posant le problème de la gravitation. Il avait réfléchi en partant de l'idée que l'hamiltonien est nul faiblement lorsqu'on regarde les équations de la gravitation, de la gravité quantique, disons. Et de là, il en avait déduit justement la même chose. C'est-à-dire qu'il avait compris que c'est pas normalement que font les physiciens de la mécanique statistique. Ils se donnent une évolution dans le temps et ils cherchent des états d'équilibre. Et Carlo avait compris qu'il fallait inverser le système, c'est-à-dire qu'il fallait partir d'un état, et d'un état thermodynamique, c'est-à-dire d'un état qui est bon, qui vérifiait certaines propriétés, et que cet état engendrait son propre temps. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que ça, c'était une idée philosophique qu'a eu Carlo, c'est une idée physique, si on veut. Mais ce qui est incroyable, c'est que ça cadrait tellement bien avec les mathématiques. Donc c'est ça qui est essentiel.
Mais est-ce que vous iriez jusqu'à dire, au motif que le temps est émergent, qu'il est irréel?
Non, c'est ce que dit Carlo. Non, parce que Carlo dit le temps n'existe pas. Non, j'irai pas jusque là. Non, pas du tout. Mais justement,
le temps passe. On va déjà avoir la réaction. Malheureusement, à la radio, nous ne sommes pas encore dans un univers quantique, et donc le temps passe normalement et ne s'arrête pas. Carlo Rovelli, sur cette notion de cette provocation aussi que vous aviez lancée sur l'existence du temps.
Ben absolument. Si je regarde les équations de Newton, il n'y a pas de haut et de bas. Ça veut pas dire qu'ici, je peux marcher sur le plafond. C'est-à-dire, ici, le haut et le bas existent. Donc, il y a des choses qui émergent, qui existent à notre échelle, avec lesquelles on vit. Nous vivons dans les temps, évidemment. Notre temps est super réel. Comme est super réel que mon crayon va tomber vers le bas et pas vers le haut. Mais, à niveau fondamental, dans l'univers, il n'y a pas de haut et de bas. Et à un niveau fondamental, il me semble tout pointe vers dire que le temps n'est pas une des ingrédients fondamentaux de l'univers. C'est quelque chose qui se forme dans certaines situations qui sont très communes et dans lesquelles nous vivons, se forme à travers la thermodynamique. Et cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de variabilité dans l'univers, mais il n'y a pas de variabilité organisée dans une temporalité. Il y a une variabilité plus profonde qu'une variabilité quantique.
Est-ce que pour vous aussi, ça fragilise le passé?
Non.
Ah oui, ça fragilise complètement le passé. Le passé s'est reconstruit.
Mais tout le monde n'est pas l'air d'accord.
Cela ne veut pas dire que
j'essaie de comprendre ce que ça veut dire. Mais
c'est pas... Oui, je vous ai coupé, Carlo Rovelli.
Qu'est-ce qui se passe à Armand dans le livre?
Oui.
C'est une question pour
oui.
Alain.
Oui, vas-y.
Ils apparaissent de façon un peu comme ça. C'est comme il s'en va dans le rien. Il est presque en train d'échapper.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que... Non, mais c'est intéressant. C'est très intéressant parce que finalement, on aurait bien tort, par exemple, d'essayer de m'identifier avec Armand Laforêt. En fait, il n'y a pas...
C'est pourtant très tentant. Hein,
c'est très tentant, d'autant plus...
Vous êtes l'arbre qui cache la forêt.
Non, mais c'est d'autant plus tentant qu'à la fin du livre, on remercie André Laforêt. Et je signale quand même qu'André Laforêt est ma mère, qu'elle a 95 ans, qu'elle habite à Draguignan avec mon père, qui est dans sa 100e année. Mais je veux dire, il n'empêche, je ne suis pas Armand Laforêt. Et je n'assume absolument pas sa fuite à un moment crucial du livre. Hein, je veux dire, il est un peu couard, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans lequel sa présence aurait été fort souhaitable. Et au lieu qu'il soit courageux et qu'il reste, il s'en va. Donc on n'en dira pas plus.
Ces relations avec Charlotte Dampierre.
Les auteurs veulent s'en débarrasser.
On a l'impression que les auteurs veulent s'en débarrasser. C'est vrai, c'est un personnage qui devient un peu gênant.
Il y a des portables qui fonctionnent partout.
Voilà, il y a exactement. Donc bon, il y a quelque chose là qui ne correspond pas du tout à une image qu'on voudrait donner.
Carlo Rovelli, ça vous convient comme réponse ou...
Ah oui, ça explique.
En un mot, ce livre, est-ce que vous pensez, vous espérez que ça va modifier la conception du grand public vis-à-vis de la mécanique quantique, cette question que je posais au départ, la mécanique quantique est-elle un théâtre ouvert à tous? Est-ce que pour vous c'est vrai?
Alors peut-être. Pour moi, l'intérêt de ce livre, il y a multiples intérêts qu'on a discutés, mais il y en a un qui est fondamental, c'est que en France et dans beaucoup de pays, on présente la physique quantique comme une évolution. C'est-à-dire qu'on l'a dit dans le cadre de la physique classique, elle est censée remplacer. En fait, c'est une véritable révolution. Et ce que montre le livre, c'est que, en effet, elle a des implications philosophiques, notamment conceptuelles, qui vont bien au-delà de ce que la physique classique permettait d'envisager.
Carlo Rovelli, un mot de conclusion, on arrive au terme de l'émission.
Je pense que quand Copernic a compris que la Terre n'est pas le centre de l'univers, ou quand... Dans le grand passé, Anaximandre a compris que sous la Terre, il y a le ciel qui continue. Au début, c'était très, très étrange. C'était des immenses révolutions de pensée. Ça a pris des siècles pour que les gens vont comprendre ça et faire partie de leur vision du monde. Je pense que lentement, ça va se passer, ça aussi, pour la mécanique quantique. Je pense que ce livre a le mérite exceptionnel de nous permettre à beaucoup de gens de commencer à rentrer dans ce très étrange monde qu'est le monde quantique.
Très bien, merci beaucoup. Le débat de Sciences Publiques d'aujourd'hui s'achève. Donc merci à Alain Cohn, Étienne Klein et Carlo Rovelli d'y avoir participé. Sur le site de Sciences Publiques, vous trouverez les références de l'ouvrage dont nous avons parlé aujourd'hui, Le théâtre quantique d'Alain Cohn, Dany Chérault et Jacques Dixmier, publié aux éditions Odile Jacob, ainsi que d'autres ouvrages sur la mécanique quantique et le temps. Vous pouvez également réécouter cette émission pendant 1000 jours et la podcaster pendant un mois. La semaine prochaine, vendredi 31 mai, nous retrouverons notre partenariat avec la revue Science et Vie autour d'un sujet très sensible, l'évolution de la durée de vie en bonne santé. Alors que nous vivons de plus en plus longtemps, il apparaît depuis quelques années un phénomène pour le moins préoccupant, la durée de vie en bonne santé, notion encore assez floue, aurait tendance à ne pas progresser autant et peut-être même à baisser. Cela signifie-t-il que nous allons vivre de plus en plus longtemps en mauvaise santé? Nous en débattrons avec nos invités, parmi lesquels Boris Bélanger et Jean-Marie Robine, Sciences Publiques, Dany Journaud, Wissam El-Kayer, Marie Dalquier, Michel Albergonti.